protagonistes de mon film, tous les quatre protagonistes, sont liés avec les arts et la culture. Et ils font plusieurs activités. Il y a un écrivain taïwanais qui s'appelle Zhu Youxun qui a écrit une livre où il imagine la future de Taïwan quand le Taïwan sera occupé par la Chine. Alors c'est un œuvre assez dystopique, mais aussi assez il voit le futur de Taïwan ne tellement pas positivement.
Version pessimiste de l'avenir.
Oui. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Casey Wong. C'est un artiste de Hong Kong qui a fui de Hong Kong après la révolution de...
Des parapluies.
De parapluies, voilà. Et il est avec des autres exulants. Il vit à Taïwan et il fait beaucoup des arts dans les rues et des actions contre la Chine et pour célébrer la liberté et la démocratie à Taïwan. Il y a aussi une dessinatrice de bande dessinée, Stelina Chen, qui en fait habite entre France et Taïwan. Elle dessine pour les mondes où souvent il y a des dessins de Stelina Chen qui commentent sur la géopolitique et aussi la situation à Taïwan. Et la dernière personne, c'est un photographe et en même temps le propriétaire de la restaurant tchèque Karel Picha qui prennent des photos des actions civiques, des visites, des politiques internationaux qui supportent Taïwan. Et aussi, il a pris la série de photos très importantes pendant la révolution de Tournesol en 2014. Et il a gagné plusieurs de prix de la photo.
Je 关于这个垃圾涡流的新闻还没有非常的普遍，只有很少很少的人知道。Bonjour
tout le monde, je m'appelle Harna Honkop, je suis moitié tchèque et moitié japonaise. J'ai grandi ici à la République tchèque, mais j'ai passé pas mal du temps même en Asie, au Japon, à Taïwan et en Chine parce que à l'université, j'étudiais le chinois.
Combien de temps à Taïwan?
J'étais là pour un an. C'était en 2007 et 2008, un temps assez turbulent quand on avait les premiers Jeux olympiques en Chine et les Taïwanais étaient vraiment contre le fait qu'ils ne peuvent pas participer sous le drapeau taïwanais aux Jeux olympiques en Chine. Alors, dans cette époque-là, j'étais sur leur côté et c'était aussi quand j'ai réalisé que la question d'identité taïwanaise et qu'il y a beaucoup de problèmes. Dans cette époque-là, j'étais assez jeune, mais déjà j'étais assez active, je peux dire, aussi parce que avant mon séjour à Taïwan, j'ai vécu un an à Pékin, alors je pourrait bien comparer les deux pays et que ce sont vraiment les deux univers très très différents.
En 1970,
vous connaissez très bien cette île, vous connaissez également bien les écrivains taïwanais parce que vous avez réalisé un cycle, une série de documentaires pendant le Festival de littérature de Brno l'année dernière, où Taïwan était le pays invité d'honneur, principal et unique invité de cette année 2024. Quels sont les écrivaines ou les écrivains qui vous ont le plus marqué pendant le tournage de cette série ?
L'année dernière, à Brno, j'ai filmé avec 16 écrivains taïwanais. C'était vraiment un mélange des écrivains très intéressants. Et j'ai resté en contact avec plusieurs. Un de ces écrivains, c'est un écrivain très, très, très populaire en ce temps-là, qui s'appelle Kevin Chen, et qui habite maintenant à Berlin. Alors, il est aussi souvent en Tchéquie. Et qui est devenu vraiment un star de littérature contemporaine taïwanaise. Évidemment, l'autre star, un peu plus âgée et très respectée, c'est Li Ang, la femme de la littérature très connue, qui a écrit une œuvre « Quand j'ai tué mon mari ». Qui était traduit à beaucoup de langues, même en tchèque, je crois, en français aussi, et toutes les langues principales mondiales. Et il y avait des autres écrivains très intéressants, comme par exemple Kaori Lai, Wu Ming-yi, beaucoup des écrivains qui sont traduits dans les langues étrangères et on peut avoir un accès à cette littérature qui, je peux dire, est assez intéressant et qui couvre les sujets assez différents de notre sujet européen, je peux dire.
Vous parlez mandarin vous-même. Est-ce que le sujet de la Chine et de cette potentielle invasion dont il est tant question est centrale dans la création littéraire aujourd'hui à Taïwan.
Il y a certains écrivains à Taïwan qui touchent ce sujet de l'annexion de Taïwan, mais c'est pas la question pour tous les écrivains. Je peux nommer par exemple l'écrivain Huang Chunkai qui touche ce sujet de l'annexion de Chine ou possible l'écrivain et poète Hong Kong qui de temps en temps écrit aussi sur ce sujet-là. Il a écrit un poème très beau qui s'appelle Exil. C'est la vie dans l'exil. Quand il faut quitter le pays, c'est un scénario bien possible pour les Taïwanais aussi, parce qu'on a vu ce scénario à Hong Kong déjà.
Et ça a l'air d'être très important, la littérature. D'ailleurs, l'écrivain dont vous parlez qui habite à Berlin, Kevin Chang, était à la bibliothèque Václav Havel en même temps que le ministre de la Culture taïwanais lui-même. Écrivain, elle est au cœur, cette littérature, de la société taïwanaise?
Oui, évidemment, comme dans chaque pays culturel, littérature est un cœur de la culture. Et ça veut dire, oui, bien sûr, à Taïwan, littérature est très importante. Le ministère de la culture supporte des écrivains.
Est-ce qu'on trouve... pour des gens qui ne connaissent pas Taïwan, la société taïwanaise, est-ce qu'il y a aussi des écrivains plus favorables à la Chine? Ça existe?
Oui, à vrai dire, si vous êtes contre chinois, bien sûr, ça ferme des portails pour le grand
marché
chinois. On voit ça en littérature, on voit ça en film. Alors, des écrivains taïwanais qui ne vont pas fermer cette porte, ils n'écrivent pas contre la Chine.
Parce que ça leur ouvre des portes à des millions
de
lecteurs.
Oui, exactement. Et alors, on peut voir l'autocensure dans l'œuvre de ces écrivains, mais je ne veux pas dire qu'ils écrivent pour la Chine, exactement, mais il écrit pas contre.
Comment va Taïwan, vous qui connaissez bien cette île, qui avez rencontré beaucoup de monde, des écrivains, mais pas seulement des écrivains. Fin octobre, le pays a marqué le 80e anniversaire du départ des Japonais. Alors cela a été aussi marqué à Pékin. On a vu des communiqués avec un ton assez terrible du côté chinois, en disant que la réunification était une priorité, qu'il fallait la faire, que c'était inéluctable. Comment va Taïwan en cette fin d'année 2025, selon votre perception ?
À vrai dire, pour la population taïwanaise, la guerre qui est probable, ce n'est pas dans ce jour-là la question, parce que les Taïwanais sont déjà tellement habitués au fait qu'il y a les provocations de la Chine, de la menace de la Chine chaque jour ou chaque année ou toujours. Ça a pris beaucoup d'années qu'il y a la menace. Alors, pour eux, ils vivent leur vie quotidienne. Et même parce que l'Ukraine est tellement, tellement loin, et où Gaza est tellement loin de Taïwan, alors pour eux, ce n'est pas la question. Bien sûr, c'est la question pour les politiciens, mais pas pour les gens, la population normale. Mais c'est vrai qu'il y a certains nombre de la population qui, par exemple, prennent les exercices, ils s'entraînent pour la probabilité si la Chine envahit. Ce sont les exercices défense civile. Alors, on voit le nombre de Taïwanais qui font des exercices comme ça. Alors, une partie de la population est consciente de cette menace.
Comment est-ce de venir de Prague ? On me dit qu'en général, les Tchèques sont très très bien perçus ces dernières années pour le soutien apporté à Taïwan notamment. Vous l'avez expérimenté personnellement, cela ?
Oui, bien sûr. Maintenant, si vous dites que vous venez de la République tchèque, les Tchèques sont vraiment très très bienvenus à Taïwan. C'est déjà à cause de Václav Havel qui est bien traduit à Taïwan, mais dans l'époque dernière, c'était la visite du président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil. Son visite en 2020, c'est marqué, c'était vraiment quelque chose d'unique parce qu'il était un des premiers politiciens
de haut rang,
très haut, qui est venu supporter Taïwan. Et après, c'était Nancy Pelosi, par exemple, mais Miloš Vystrčil, le président du Sénat tchèque, il était vraiment le premier. Et puis, ce sont aussi les pays de l'Est qui ont vécu la histoire qui est bien similaire de celle de Taïwan, parce qu'on a expérimenté l'époque de communisme et on peut dire qu'on est assez proche. Même à Taïwan, c'était l'histoire
d'une dictature également.
Dictature et régime autoritarien, mais on a quand même quelque chose en commun et c'est pourquoi on se comprend très bien.
Vous avez l'impression vraiment que Tchèques et Taïwanais se comprennent bien ?
Oui, oui, absolument.
Est-ce que on comprend bien ici, à Prague, et peut-être en Europe en plus généralement, ce qui est en train de se jouer à Taïwan, selon vous ?
Je crois que c'est plutôt les gens qui suivent la géopolitique. La plupart de la population, ils ne savent pas même c'est où l'île de Taïwan. Ils mélangent Taïwan ou Thaïlande. Ça, c'est souvent cette mélange ce que je comprends. Alors, mais les gens qui sachent, je crois, ils se sont conscients que Taïwan pourra être le lieu, si quelque chose se passe là-bas, que ça peut être vraiment le commencement de la Troisième Guerre mondiale. Même on est déjà dans la guerre hybride, dans la guerre des informations, c'est la guerre hybride. On voit les similarités entre Russes et Ukraine et comment la Russie interfère en Europe. On voit exactement le même scénario de la part de Chine, ce qu'ils font à Taïwan. On connaît bien tous les armées des machines qui font les fake news automatiquement. C'est vraiment...
Les fermes à trolls.
Fermes à trolls qui sont tellement grands en Chine, on ne peut pas même imaginer. Alors, ils publient chaque jour centaines ou dizaines, centaines, mille des articles qui influencent la vue des Taïwanais. On a vu ça pendant la vote, pendant l'élection du président.
La dernière élection présidentielle, effectivement.
Oui, on a vu ça pendant la dernière élection présidentielle à 24 en janvier, parce que les élections c'était bien manipulé dans ce cas-là aussi. Mais heureusement, les démocrates et le président William Lai, qui est le chef des démocrates et le successeur de président Tsai. Et alors, on a même gagné, mais par contre, dans le Parlement, c'est le Kuomintang, la partie opposée, est pro-chinois qui a gagné. Alors, même à Taïwan, la situation politique s'est bien dividée, comme on le voit, la situation ici en Europe. C'est aussi la situation, malheureusement,
société
à Taïwan aussi.
Société polarisée.
Exactement.
Depuis le temps que vous y allez à intervalles plutôt réguliers, depuis l'année où vous y avez habité, comment est-ce que vous avez vu la société taïwanaise changer?
Quand j'étais là en 2007, c'était pendant le gouvernement de Kuomintang. C'était le président Ma Ying-jeou dans cette époque-là. Et on a vu la société qui était vraiment contre la politique de Kuomintang. Et depuis cette époque-là, quand les démocrates ont gagné, et c'est maintenant le troisième terme de démocrates qui sont installés à la chaise du présidentiel, alors la notion d'indépendance et de la démocratie, c'est beaucoup plus fort maintenant, comme je le sens. Et alors, ça qu'on a réussi à Taïwan, couper la poste de Kuomintang, ça changeait beaucoup.
Vous avez tourné également en Chine vous-même. Vous avez eu l'impression, en parlant aux Chinois, que pour eux, peut-être que la propagande du régime fait que c'est inéluctable, qu'il faut remettre Taïwan dans le giron de Pékin?
Oui, en Chine, ce n'est pas la question. C'est
une question de temps seulement?
Oui, c'est pour le peuple. On ne peut pas même parler la politique avec le peuple. C'est pour eux, c'est pas la question. C'est vraiment, c'est la normalité, c'est quelque chose qu'il faut. Et il n'y a personne qui doute que Taïwan n'est pas chinois. Pour eux, c'est Taïwan, c'est la Chine. C'est la même chose comme Xinjiang, c'est la Chine, ou que Tibet, c'est la Chine aussi. Et maintenant, Hong Kong aussi.
Est-ce que, de ce que vous avez pu avoir comme retour de vos collègues taïwanais ou de vos connaissances sur place, le fait que ce soit Donald Trump à la Maison-Blanche les inquiète davantage que si c'était quelqu'un d'autre? On a vu la rencontre fin octobre entre Donald Trump et Xi Jinping, où le sujet de Taïwan n'avait même pas été abordé. Comment vous sentez les Taïwanais?
Xi Jinping annonce chaque année pendant la parole de Nouvel An que Taïwan sera réuni avec Chine. Et même s'il y a n'importe quand à la Maison Blanche, pour Xi Jinping, c'est toujours la même...
Peu importe qui est président américain.
Oui, c'est... Ça veut dire que maintenant, on ne sait pas pour... Taïwanais, ils sont bien sûr, ils sont un peu nerveux que Donald Trump est élu comme le président parce que ce n'est pas sûr son réaction. Comme on voit, ils changent leur opinion tout le temps. Alors, c'est pas exactement évident qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand on voit que le support de l'Ukraine de la partie américaine est moins fort, on peut voir probablement la même chose à Taïwan. Et c'est un peu inquiétant, oui, voilà.
Pour tous ceux qui connaissent Taïwan, j'aimerais bien poser la même question à chaque fois. Est-ce que vous avez un son préféré de Taïwan? Quelque chose qui vous a plu dans l'environnement sonore, que ce soit à Taipei ou dans d'autres régions ou villes que vous avez pu visiter?
Taipei, au niveau sonore, c'est la folie. Il y a trop de motocycles et trop de voitures. Et c'est vraiment la folie. Alors, on ne peut pas, pendant la nuit, je ne peux pas même dormir.
Comme à cause de la circulation?
Oui, la circulation de motocycles, c'est ouf. Alors, je préfère bien sûr la nature. C'est... Par exemple, la côte est de Taïwan, c'est très joli, c'est calme.
Donc en face des premières îles japonaises?
Oui, aussi, ou même au nord du Taïwan, c'est où on voit des montagnes et aussi la mer. C'est le son de cigales. Alors, c'est quelque chose de plutôt calme et quelque chose qui ressemble à la méditation, ce qu'on peut trouver à Taïwan.
Merci beaucoup, Aruna. J'espère qu'on se reparle bientôt et peut-être même à Taipei.
Oui, à bientôt. Et venez à Taïwan!